Président, juste un mot. Évidemment, les PLU, les zones à urbaniser ou dans lesquelles on peut faire des industries, dans une vallée comme celle de l'Arve, elles sont souvent confrontées à des zones concernées par le risque inondation. Alors, le risque inondation, tout le monde dit, bon, ouais, en fait, vous savez, ça relève parfois quasiment d'une espèce de fantasme. On entend parler de zones de rouge, de risque inondation, personne n'y croit vraiment. Sauf que quand la catastrophe arrive, ah, on voit ça d'un autre œil. Puis on se dit, mais quel est le représentant de l'État irresponsable qui a autorisé telle ou telle chose? Quel est le maire qui a accepté de délivrer un permis à tel ou tel endroit? Aujourd'hui, suffisamment de catastrophes nous rappellent que ce sont des sujets avec lesquels on ne peut pas sourire. Il faut être extrêmement strict. Alors, il est vrai que lorsque les restrictions s'imposent aux uns aux autres, ben ouais, ça ne se fait pas sans douleur, c'est pas simple, car l'histoire a changé. Mais sur ce registre-là, moi je souhaite appuyer ici, évidemment sur la position de l'État, mais aussi en soutien des élus, qui sont contraints parfois de prendre des décisions difficiles. Mais ils le font, monsieur, peut-être pour protéger de catastrophes à venir, auxquelles aujourd'hui personne n'est vraiment très porté, les gens ont du mal à y croire, quoi, voilà. Eh bien, moi, je crois qu'il faut être très prudent. Le climat change, la montagne change, les rivières changent parfois. Il faut être extrêmement prudent. Alors, c'est vrai qu'il faut s'organiser en face de tout cela. Et ces réflexions ont été aussi au cœur de la construction du projet Funiflen. Ces risques ont été pris en compte.
Bonsoir. Valérie Monet, je représente la société Go Massif et je voulais savoir quelles étaient exactement les restrictions par rapport à l'utilisation de la route de Flaine.
Je vous ai pas localisé, vous êtes où? Hop, hop, voilà, excusez-moi. Donc les restrictions d'utilisation, autrement dit.
Vous avez parlé de restrictions pour l'utilisation, qu'elle serait que les cars n'auraient plus le droit de monter à Flaine.
Ah,
Bon,
d'accord.
ben, nous, on a des minibus, on voulait savoir si on pourrait toujours monter les clients sur Flaine, puisqu'on les prend à l'aéroport de Genève et qu'on les monte sur Flaine.
Voilà, bonne question. On comprend mieux. Il n'y a pas de solution unique à un problème. Ou une question. Il n'y a pas une seule réponse à la question qui est posée. La réponse, elle est multiple, vous l'avez compris tout à l'heure. On a envie. Nous qui sommes les promoteurs, on a envie de rendre le tracé plus attractif pour les utilisateurs. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la vallée, il faut qu'on leur donne envie de sauter dans ce bel équipement qui va nous monter très rapidement les skis sur l'épaule et aux pieds immédiatement après pour aller faire notre journée de ski. Vous nous parlez des gens que vous allez chercher à Genève et que vous souhaitez monter en station. Mais tout se discute. On ne va pas, certainement pas vous interdire de monter. On ne va pas faire quatre ruptures de charge, une fois en sortant de Genève à la frontière, parce que ça peut arriver, une autre fois en bas et puis et plus loin. Non. Bon, tout se discute entre les véhicules qui demain sont déjà hybrides, qui demain seront électriques, ils n'ont pas peur des mots. Et puis les vieux bus qui aujourd'hui sont encore Euro 2 ou Euro 3 et qui ont de la peine à se hisser avec le tonnage en haut, il y a plein de choses à discuter, voilà. Donc c'est une question, et c'est une excellente question, parce qu'on va la conserver au fond de nos débats ce soir. Et ça, je ne le dis pas pour vous faire plaisir, mais c'est un excellent sujet. La même question peut se poser d'ailleurs, est-ce qu'on va laisser monter, personne ne l'a posé, mais des poids lourds, de 19, 20 tonnes, etc., là-haut pour approvisionner. Il y a au moins deux ou trois sujets. Le premier sujet, c'est que sur la route départementale, c'est nous qui décidons. Dans les traversées des villages, ce sont les maires qui décident. Et donc, là aussi, on va se parler. Et c'est le bon sens qui va s'imposer. L'idée générale, c'est bien, on monte tout seul, plus vite et plus confortable, et on redescend. De la même façon, et je redis à nouveau les secours, c'est un sujet que j'évoquais avec les services d'incendie et de secours, dont l'un des représentants est là, j'ai vu tout à l'heure, le colonel Pape, je ne sais pas où il est, le colonel, il est là. On évoquait ce sujet. Vous avez un problème sur vous avez un problème sur la piste, le temps d'être secouru. pris en charge, si vous avez la possibilité, si on a la possibilité d'adapter immédiatement à la descente dans la benne la prise en charge du blessé, plutôt que de lui offrir les virages et la demi-heure ou les 40 ou 50 minutes pour descendre, c'est peut-être mieux quand même. Voilà. C'est tous ces petits sujets qui font la modernité, la performance de notre installation.
Claudette Perreux.
Excusez-moi.
Oui, je voulais simplement compléter un point important qui, en effet, viendra enrichir le cahier des charges de la délégation de service public lorsque nous ferons appel à un concessionnaire. On n'évoque pas, c'est la notion de l'horaire de l'ouverture et de la fermeture. Car en effet, cet appareil, en fonction de son horaire d'ouverture et de fermeture, peut en effet donner raison à certaines interrogations. Et en ce qui concerne le transport, bien évidemment, des petites navettes qui viennent par exemple de Genève, il est certain qu'en fonction des horaires, tout est modifié. Tout à l'heure, lorsque je parlais de restriction des cars, et c'était en effet évoqué par l'intervention qui a été faite tout à l'heure, bien évidemment, je parlais des tours opérateurs. Et les tours opérateurs, quant à eux, on peut leur imposer un horaire. C'est-à-dire on peut leur permettre de dire, si vous passez tel horaire, date de fermeture, vous aurez à prendre en charge votre clientèle avant qu'on achemine sur Flaine. En ce qui concerne le transport de votre clientèle, on constate que sur la route de Flaine, on n'a pas de souci avec vos transports, ces petits transports. Donc il faut bien faire la distinction entre A et B et surtout ensuite s'adapter à la notion des horaires d'ouverture et de fermeture qui vont conditionner bien évidemment ce que vous avez pris tout à l'heure par rapport au poids lourd, par rapport au bus. Bon, je crois qu'il y a déjà cette typologie de véhicule qu'on doit travailler en profondeur et qu'on doit adapter aux horaires de l'appareil proprement dit.
Bon, moi je reviens à la source. Moi je suis désolée monsieur sous-préfet de penser que vous avez une fonction qui est difficile mais que vous êtes dans la catégorie qui se couvre quand il n'y a rien à couvrir. Vous prenez les précautions à l'avance. Parce que moi, j'habite depuis 54 ans.
Soyez sympa. On n'est pas venu pour s'attaquer ce soir.
Non, mais
d'accord.
J'attaque pas.
Voilà, soyez sympa, s'il vous plaît.
Ouvertement, c'est que beaucoup pensent. Je n'attaque pas du tout, monsieur le sous-préfet. Je n'ai pas la force d'attaquer quelqu'un. Mais il y a 54 ans que je suis venue habiter à Maglan. Je n'ai jamais vu. Maintenant, on me dit qu'il y a le rocher qui va me tomber sur la tête et qu'il y a des inondations qui vont inonder tout Maglan. Donc, moi, j'ai besoin de raisonner. Donc, comme vous avez l'intelligence et moi pas, vous allez quand même m'expliquer.
Vous me sous-estimez, madame.
J'habitais à Marigné, le long du Giffre. Le Giffre, c'est une rivière beaucoup plus torrentueuse que l'Arve. Ouais, mettons-les à égalité, si vous voulez. Elle a été endiguée, elle n'a jamais débordé. On n'a jamais vu ça. Maglan, maintenant, on a fait des digues, qui sont des nouvelles sortes de digues, et maintenant, on devient inondable. Donc moi, bêtement, je ne comprends pas. Alors Maglan, elle est presque tout Maglan en zone rouge. Alors si on se demande pourquoi Maglan est en train de végéter, ben c'est parce qu'on n'a pas d'espace où on est tranquille. Hein. On risque l'inondation, on risque tout. Et moi, je trouve un peu bizarre que sur la même propriété, on a un qui peut être inondable et le voisin, il ne l'est pas. Donc il y a une logique qui me dépasse. Moi, je veux bien qu'on m'explique, je veux bien qu'on vienne avec moi, je veux bien qu'on fasse le tour de tout et de savoir de quoi on a peur. Parce qu'on nous donne peur, c'est une peur.
Merci, inondation, c'est une peur. On a compris, je pense que.
Oui, ben oui, mais.
Quelqu'un va répondre. On va vous répondre.
Madame, alors merci pour votre question. Ça permet de clarifier deux, trois choses. Vous savez, vous le dites, le sous-préfet, surtout à ce moment de l'histoire de France, n'a pas forcément une place très facile. Mais je l'assume parfaitement. Pour répondre à votre question, on s'appuie sur des tas de textes et il faut veiller à ne pas les interpréter de manière trop restrictive. Donc si le sous-préfet peut avoir une plus-value pour les questions que vous évoquez, elle consiste, voyez-vous, sa position à faire un peu tampon entre les contraintes imposées par les techniciens qui font une analyse très restrictive des textes et amener un peu de bon sens par le contact avec les élus locaux. Alors c'est vrai, il y a des décisions compliquées à prendre, mais faites-moi l'honneur de penser qu'elles sont souvent pesées, peut-être sur la base de considérations que vous ne maîtrisez pas et n'y voyez pas offense, mais parce qu'on est dans des domaines très techniques. Et vous savez que lorsque des catastrophes arrivent, comme nous n'avons jamais vu, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, à ce moment-là, croyez-moi, chacun est plutôt content d'avoir vu mis en place des protections sur lesquelles, auxquelles personne ne croyait vraiment. Le sujet est compliqué, il faut appliquer les choses qui s'imposent à nous avec bon sens, mais je n'ai pas de regrets dans les décisions qui sont prises.
Merci, Monsieur le Président. Alors, permettez-moi de dire quelques mots. Moi, je suis rentré tout récemment dans le dossier et je me félicite vraiment qu'on ait des investissements dans nos massifs et qu'en plus, ces investissements diminuent le nombre de camions, de cars et de véhicules sur la route. J'ai à ma gauche le président du SCOT, et donc, comme le rappelait mon collègue Martial Sadier, on a un SCOT qui est tout nouveau, qui est en train d'être élaboré. Et je pense que dès le 8 mars, lorsque la concertation sera terminée sur cette période-là, il sera nécessaire que, autour du SCOT, vous puissiez discuter sur l'aménagement global de notre massif, et en particulier sur ce projet-là, ça me semble important. Juste une remarque, beaucoup de choses ont été échangées et j'ai vu qu'il y avait un tracé alternatif. Je pense qu'il est facile avec les services de montrer qu'effectivement il y a des zones qui sont en PPR et qui ne permettraient pas du coup entre le P1 et le P3 donc de répondre pour qu'effectivement il y ait des problèmes d'installation, parce que au vu comme ça on aurait l'impression que c'est plus facile d'être au centre, mais il y a sûrement des problèmes techniques. Moi, ma question me porte plus sur, et je vous en avais parlé Christian, sur la partie économique. C'est un beau projet, il y a de l'argent de la région, du département, de l'État, et puis il y aura une délégation de services publics pour l'exploitant. Et je pense qu'à ce stade-là, ou juste après la concertation, il sera nécessaire de faire une petite étude économique pour rassurer tout le monde. Et peut-être qu'on disait que 800 places n'était pas suffisant. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais j'imagine qu'il va falloir faire d'autres aménagements, monsieur le maire, au pied de cette remontée mécanique, peut-être pour faire un peu de logement, effectivement, pour les gens qui ne voudront pas dormir là-haut, maintenant qu'on aura le transport. Donc, cette petite étude économique, elle semble nécessaire pour, s'approprier le sujet. Et puis, après, plus largement, mais ça, c'est dans un deuxième temps, on aura forcément besoin, comme on n'a pas de SCOT terminé, d'un UTN. Hein. Et donc, il faudra qu'on invite le comité de massif, et en particulier l'espace et urbanisme, afin de les inviter, à mon avis, dans l'été, pour leur présenter le projet, et puis avant qu'on soit dans des dossiers qui sont assez lourds, pouvoir faciliter le dossier et faire ici inviter le comité de massif pour pouvoir leur monter le projet.
Question-réponse à la tribune, ça ne se fait pas, mais des études, on en a à peu près 15 kilos, qui sont vieilles, qui sont très vieilles, qu'on a oubliées, certaines qui sont encore véritablement d'actualité. On est sûr d'une chose, c'est que, et c'est vraiment le sujet que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le manque de financement, les documents, vous les avez, c'est une installation qui va avoir un besoin de financement d'une quinzaine de millions d'euros, une fois qu'on a mis l'argent de l'État, de l'Europe, du département, de la région, des communes et de l'Interco, il manque une quinzaine de millions d'euros. Alors, nous, on a envie de mettre la barre relativement haute sur les exigences de fonctionnement, sur le cadencement, sur le fonctionnement dans l'année. Moi, j'ai repris la question des collégiens, des lycéens, des écoles. On a même parlé, on a eu des questions concernant le ski de fond à Pierre Carré, etc. Tous ces sujets, on va les noter. Et ce sont les aménageurs qui vont venir, avec les investisseurs, nous faire la meilleure proposition, meilleures conditions. Donc, s'il n'y a pas d'équilibre économique, il n'y aura pas de funiflène. Il n'y aura pas de funiflène. Parce qu'on ne mettra pas un euro de plus. La seule chose sur laquelle nous puissions compter, c'est que la concurrence fera qu'on aura le service au meilleur prix. Voilà. Sinon, il n'y aura pas. Voilà, c'est tout, on se sera battu et on n'aura pas réussi. Bon, certains seront contents. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec le tracé ne seront peut-être pas contents parce qu'on aura perdu quelque chose. Et voilà, notre objet, c'est vraiment de réussir à rassembler les conditions et à mettre les exigences au meilleur niveau. Voilà, donc, et après, on va faire très vite, hein, on va faire très vite la concertation. On se retrouvera au niveau de la prise de décision très, très, très rapidement. On ne va pas attendre 15 ans de plus, ça fait trop longtemps qu'on en parle. Voilà, donc on va le faire ou pas, selon ce que vous allez dire, et puis selon les moyens qu'on pourra mobiliser.
Oui, je voudrais compléter ce que dit le président quand tout à l'heure le coût de l'investissement, si vous en faites de cet appareil, vous avez vous a été mentionné. En fait, il s'agit en effet de 76 millions d'euros. Comme le rappelle le Président, nous sommes face à un apport de subventions cumulées, y compris l'Europe, qui permet de constater que lorsque le délégataire va être choisi, donc le conseiller va être choisi, il sait qu'il n'aura à mettre en effet 15 ou 16 millions d'euros pour en effet construire et ensuite exploiter l'appareil. Je voudrais simplement vous donner un exemple. Le télésiège qui a été construit au Molier très récemment, vous connaissez, hein, qui part des Moliers jusqu'à la TD Pretzé, combien a-t-il coûté ? Il a coûté 8 millions d'euros. Avons-nous un retour d'investissement ? Non, puisque nous remplacions deux télésièges. Lorsque vous faites, si vous voulez, en fait, cette analyse, et que vous constatez qu'un concessionnaire aura 15 millions d'euros à engager avec 60 millions d'euros de subventions, je pense que, si vous voulez, on aura beaucoup de candidats. Car, en effet, le retour d'investissement du concessionnaire, eh bien, il va être basé sur deux éléments. Le premier élément, le ticket d'entrée pour les surflaines. Mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure, si nous sommes reliés avec 1500, on aura un ticket d'entrée sur le Grand Massif. Ça veut donc dire que, si vous voulez, le concessionnaire va, avec beaucoup de lucidité, aborder un aspect économique en compte d'exploitation prévisionnelle sécuritaire. Je veux dire sécuritaire. Et je vous parle, en tant que président de Montée Mécanique, que j'étais pendant 19 ans au carreau, je veux dire sincèrement que c'est un sujet qui va, en effet, exciter beaucoup de concessionnaires. Et en parallèle de cela, il y a toute l'économie locale qui va se développer, les emplois qui vont se développer. Vous l'évoquiez tout à l'heure, ça va amener beaucoup d'emplois pour le concessionnaire. Et là, je me tourne vers mon ami René Bouchot, et pour rassurer les gens de Madelan, mais c'est un élan extraordinaire, si vous voulez, en fait, pour la commune de Madelan, que vous allez avoir, car c'est un tremplin financier, retour économique qui va être fantastique. Possibilité d'hôtels, possibilité de commerce, je dirais, en matière d'équilibre économique, pour, si vous voulez, toute cette population nouvelle qui viendra en fait chez vous, cette dynamique en fait du CEVA avec la gare. Enfin, sincèrement, Madelan, je le dis avec du haut, va prendre un élan nouveau. Et sincèrement, je pense que les retours économiques, ils vont être favorables pour tous.
Allez, on a encore une dizaine de minutes là.
Bonsoir, c'est Martine Danton.